20h, c'est où? Bonjour. Excusez-moi, je dois m'échanger les lunettes. Hop, je vais y arriver. Aujourd'hui, on poursuit la série des prédications sur les sept paroles de Jésus à la croix. Et aujourd'hui, on arrive à l'avant-dernière. C'est quand Jésus dit, en Jean 19, 30, « Tout est accompli ». Oui, merci. On peut mettre en présentation seulement la première diapo, s'il vous plaît. En tout cas, les premiers sens de la phrase « tout est accompli » veut dire que tout ce qui était prophétisé dans l'Ancien Testament sur les Messies est accompli. Mais cette expression « tout est accompli » c'est aussi la même chose que disaient les grands prêtres les jours de Yom Kippour dans les temples à Jérusalem. Qu'est-ce que c'est tout ça? Les grands prêtres, les Yom Kippour au temple? En fait, on va voir comment Jésus a tout accompli à la croix pour que nous puissions tous, sans exception, accéder au pardon que le Père Céleste nous offre et être réconciliés avec lui. Cette prédication s'appelle Les sacrifices de Jésus, la réconciliation pour tous. Alors, pour comprendre tout cela, on va naviguer surtout entre deux livres de la Bible. D'un côté, les Lévitiques dans l'Ancien Testament et de l'autre côté, la lettre aux Hébreux dans le Nouveau Testament. Ces deux livres sont comme deux côtés de la même monnaie. Ils se parlent, ils se complètent. En fait, on sait que l'Ancien Testament est incomplet. Il manque la révélation de Jésus. Il faut que le Messie tant attendu arrive. Mais le Nouveau Testament, est incompréhensible sans l'Ancien Testament. Parfois, on nous a appris que la Bible, c'est ça. D'un côté, l'Ancien Testament. De l'autre côté, le Nouveau Testament. En fait, c'est faux. La Bible, c'est ça. Une seule unité. Tout est relié. On ne peut pas écarter des choses. En fait, Jésus est un homme juif. Il était un homme juif. Il est un homme juif et il sera un homme juif. Il est né à Bethléem. Il meurt à Jérusalem. Et quand il reviendra, il revient à Jérusalem. Il est le Messie tant attendu par les Juifs. Du coup, pour comprendre les sacrifices de Jésus, il faut voir dans quelle culture, dans quelle religion, dans quelle tradition Jésus s'inscrit. Il n'apparaît pas par génération et spontané. Il apparaît dans un moment, dans une culture, dans un endroit précis. Alors aujourd'hui, pour essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire quand Jésus dit « tout est accompli », on va examiner trois concepts. Les temples, les grands prêtres et les Yom Kippour. Mais avant de commencer, je vais prier. Notre Père, merci beaucoup pour ce temps que tu nous accordes ensemble pour méditer autour de ta parole. Je te demande, Seigneur, que tu ouvres nos oreilles pour que chacun et chacune puisse recevoir ce dont tu as pour lui ou pour elle. Et que tu ouvres ma bouche pour que ma bouche soit ta bouche. Et je demande ça. Au nom de Jésus. Amen. Alors, on va commencer par les temples. Peut-être on imagine que les temples, pour les Juifs, c'est comme pour nous l'Église, les rassemblements des croyants. Mais en fait, non. Les temples, en hébreu, ça se dit « Beth Amikdash » et ça veut dire « la maison de la sainteté ». Les temples, c'est là où se trouve la présence de Dieu. En hébreu, la Shekinah. Alors, une petite parcours historique vite de comment apparaît les temples. Après la sortie d'Égypte du peuple hébreu, au mont Sinaï, il reçoit les dons de la Torah. Les Pentateuques, les cinq premiers livres de Moïse. Et après qu'ils ont fait l'alliance, Dieu décide de vivre parmi son peuple, d'habiter là avec eux. Et du coup, Dieu va ordonner à Moïse de construire le tabernacle. Les tabernacles, c'est pour ainsi dire les premiers temples. Ici, cette image que vous voyez dans la diapo, c'est une représentation du deuxième temple. Les tabernacles sera la tente de la rencontre, un temple portatif, parce que le peuple hébreu devra toujours encore marcher dans les déserts. Et pour faire cela, ce n'est pas Moïse qui invente comment faire. Dieu va lui donner des instructions très précises de comment faire. Et il va dire, vous trouvez ça dans l'Exode, tu vas faire tout selon les modèles que tu as vus en nous. C'est-à-dire, il y a un temple céleste. Les tabernacles, et plus tard les temples, vont être divisés en trois parties. Les parvis, les lieux saints et les lieux très saints. C'est dans ces troisièmes endroits, les lieux très saints, que se trouve la présence de Dieu. Et pourquoi c'est divisé comme ça? Parce que tout le monde ne peut pas accéder là où se trouve Dieu. Oh là là, pas du tout. L'accès est restreint plus tu t'approches de là où se trouve la présence de Dieu. Pour être plus précis, dans les lieux très saints, la troisième partie, il y a la Shekinah, la présence de Dieu, sur l'arche de l'Alliance. Peut-être vous avez vu Indiana Jones, les premières Indiana Jones. Là, on voit comment il va chercher l'arche de l'Alliance. Et c'est vraiment comme ça. C'était une arche avec un couvercle où il y avait sculpté deux chérubins. Ce sont deux figures angéliques qui se regardent. Et la Bible dit que Dieu était au milieu de ces deux anges. Il apparaissait là. Sa présence était là. Et les couvercles s'appelaient aussi les troncs de Dieu, parce que Dieu était là, ou les propitiatoires. Une fois que le peuple hébreu arrive à Canaan avec son tabernacle, son temple portatif, il conquête la terre, il s'installe, David devient roi à Jérusalem. Il a à cœur, le roi David, de construire un temple parce qu'il se dit « Comment c'est possible que moi, j'habite dans un palais et l'Éternel, il se trouve dans une tente ?» Vraiment, c'est pas top. Mais ce n'est pas lui qui va faire les temples, on le sait, c'est son fils Salomon. Ça sera le premier temple qui sera détruit dans le 6e siècle, quand il y a l'exil babylonien. Je sais, tout ça c'est un peu lourd, mais on va revenir après. Et ça va nous aider à comprendre. Dans le 6e siècle, il va être reconstruit, les temples, après le retour de Babylone. Et ça, c'est le modèle déjà du 2e temple. Le deuxième temple, c'est celui que Jésus connaîtra, où Jésus va se promener, où Jésus va faire des guérisons, où Jésus va être présenté. Les temples, tels quels, il est présent dans la vie de Jésus. Et c'était un endroit extraordinaire. L'Évangile dit que les disciples disent « Regarde comme c'est monumental ». C'était vraiment, là c'est seulement une partie, il y avait une grande esplanade, parce qu'il recevait plein de pèlerins. Bref, c'était monumental. Il faisait la taille de deux colisées. Énorme. Finalement, on connaît l'histoire, peut-être, ce deuxième temple aussi sera détruit. Et la tradition juive dit que ça se passe toujours la même date. La destruction du premier temple, la destruction du deuxième temple dans les calendriers juifs. Vous savez, ils ont un calendrier différent. C'est le 9 d'Av. Il est détruit 40 ans après la mort de Jésus. L'année 70 par les troupes romaines qui détruisent complètement les temples comme Jésus avait prophétisé. Et jusqu'à présent, il n'a pas été reconstruit. La Bible parle d'un troisième temple, mais on est sans temple. Alors, quelle est la signification spirituelle du temple? J'ai dit au début que c'est l'endroit où habite Dieu, où se trouve la présence des dieux. Et ça, c'est vrai, mais ce n'est pas toute la vérité. c'est l'endroit où se trouve la présence de Dieu, et en même temps où l'homme et la femme peuvent se réconcilier avec Dieu. Parce que la volonté de Dieu, c'est vivre avec l'homme et la femme, avec l'humanité, en parfaite harmonie. Alors, j'ai fait un petit dessin de deux circonférences. La circonférence au nord représente le ciel, celle d'en bas, la terre. L'endroit d'intersection, c'est les temples. C'est là où Dieu et l'homme peuvent se retrouver et rétablir l'harmonie perdue. En fait, on sait qu'à la fin des temps, en Apocalypse 22, les temples ne seront plus là. Il n'y aura plus de temples, c'est écrit. Pourquoi ? Parce que le ciel va descendre et les deux circonférences vont s'unir. Ciel et terre unis. Alors, si les temples, c'est là où se trouve la présence de Dieu et où l'homme et la femme sont en relation, peuvent être en relation harmonieuse avec Dieu, le premier temple n'est pas le tabernacle que Moïse construit selon les indications de Dieu. Le premier temple n'est pas le temple de David ou de Salomon, pour être plus exact. Le premier temple, c'est les jardins de l'Éden, avant la chute. J'aime bien ces tableaux parce qu'il y a plusieurs scènes de ce qu'on peut lire à la Genèse. Il y a la création d'Adam et Ève, il y a l'expulsion du jardin, il y a plein d'animaux. Mais au centre du tableau, il y a Dieu qui s'entretient avec Adam et Ève. Et ça, c'est très important, c'est le plus important. Après la chute, on le sait, l'homme et la femme sont mis dehors du jardin. D'ailleurs, Dieu met deux chérubins à la porte. Les chérubins qu'on va retrouver après dans les lieux très saints. Et tous les projets de Dieu, de Genèse 3, Apocalypse 22, a pour but de rétablir cette relation pour que Dieu et l'humain puissent vivre ensemble en communion d'amour. Les temples, pour ainsi dire, l'idée du temple, pas les temples de Salomon, pas les tabernacles, les temples, c'est les fils rouges qui vont traverser toute l'histoire du salut. C'est les pourquoi derrière les quoi. C'est la raison pour laquelle Jésus va mourir à la croix. Dieu nous aime tellement qu'il va tout faire, tout donner pour rétablir la relation brisée. Alors, on voit que les temples, c'est l'endroit pour que Dieu et l'humain puisse s'approcher et se réconcilier. OK, mais comment faire cela? Comment la créature pécheresse peut s'approcher d'un Dieu trois fois saint? La Torah, les Pentateuques, prévoient une manière de recevoir les pardons des péchés et donc la possibilité de s'approcher de Dieu. Et là, je vais faire une petite parenthèse. Je crois que j'ai dit deux fois la Torah au lieu d'utiliser les mots plus courants qu'on peut retrouver dans nos Bibles ou qu'on entend de la loi. Je vais faire un point là-dessus. Les mots hébreux qu'on traduit par la loi, c'est les mots Torah. Et la loi, je vous annonce, c'est une très mauvaise traduction. Pourquoi ? Parce que le mot Torah, ça vient d'un verbe qui veut dire indiquer. Causer que l'autre suive la bonne direction. Enseigner par où il faut y aller. Du coup, normalement, ça se traduit dans les contextes juifs hébreux par enseignement. Alors, les enseignements qui donne, par exemple, un parent par rapport à ses enfants. L'enseignement qui donne un maître, comme Jésus, à ses disciples. Dans les enseignements, il y a des lois, bien sûr. Moi, quand mes enfants étaient petits, je leur disais, si tu mets la main sur le feu, tu vas te brûler. Parce qu'il y a une loi physique qu'ils ne connaissaient pas. Ce n'est pas une malédiction, ce n'est pas une interdiction, ce n'est pas que je suis un rabat-joie et je ne veux pas qu'ils mettent la main sur le feu. C'est qu'il y a une loi physique. On ne peut pas la regarder, mais elle est là. De la même manière, il y a des lois spirituelles. Si jamais vous avez fait la lecture complète de le Pentateuque, vous verrez qu'il y a des lois. Mais il y a beaucoup plus d'autres choses que de lois. Il y a des enseignements sur la forme des récits, des comparaisons, des métaphores. Bref, tout ça pour dire que je vais rester sur les mots Torah et vous comprenez par loi la loi, si vous voulez, ou les Pentateuques. Une dernière chose, ce que j'aime bien aussi sur les mots Torah, j'avais oublié, c'est que les mots loi, qui ça a été, c'est les Romains qui ont donné ces mots, c'est les mots romains lex, ça nous ramène au champ lexique de la justice, la prison, la condamnation, la sanction, oh là là, on va se faire taper. Tandis que le mot enseignement nous ramène dans les champs lexiques de voilà, quelqu'un qui a une bienveillance vers nous. Pourquoi ? Pour qu'on puisse marcher sur les bons chemins et pouvoir vivre une vie abondante. Comme quoi, ça nous aide aussi peut-être à dépoussiérer un peu l'image, à l'air de rien, qu'on peut tenir de Dieu le Père. Alors, je reviens à nos moutons, excusez-moi, la petite parenthèse. On a vu que les temples, c'est l'endroit prévu pour Dieu pour qu'il puisse avoir cette connexion ciel-terre. Et c'est possible comment ? À travers un système sacrificiel qui se réalise dans les temples de Jérusalem. Sacrifice, en hébreu, ça se dit korban, et ça vient d'un verbe qui veut dire s'approcher. Les sacrifices, on les voit un peu comme une chose que les hommes ont inventée, mais en fait, les textes nous disent que c'est un cadeau de Dieu, c'est un don de Dieu pour qu'on puisse s'approcher. Chacun, chacune peut aller au temple à l'époque et présenter un animal innocent en sacrifice. C'est un système de substitution. On sait, le dit la lettre aux Romains, que le salaire du péché, c'est la mort. Du coup, on devrait mourir. Mais ce système sacrificiel permet que quelqu'un d'autre meure à ma place. Quelqu'un d'innocent. Les principes de une vie pour une vie. Et on retrouve cela en Lévitique. Lévitique 11, 17 qui dit « Car le sang, c'est la vie de toute créature. Et moi, je vous l'ai donné afin qu'il serve à accomplir sur l'autel les rites d'expiation pour votre vie. En effet, c'est parce qu'il représente la vie que le sang sert d'expiation. » Et dans Hébreux, du coup dans le Nouveau Testament, on retrouve Hébreux 9, 22. Ah, je dois me tourner. En fait, selon la loi, presque tout est purifié avec du sang. Et il n'y a pas de pardon des péchés sans que du sang soit versé. Du coup, pour nous aujourd'hui, parler du sang, ça peut sembler un peu gore, non ? Mais c'est le système dans lequel Jésus s'inscrit et auquel il va donner réponse avec sa mort à la croix. Jusqu'ici, on a parlé du temple, de signification spirituelle du temple, des systèmes sacrificiels dans les temples qui s'étaient établis pour la réconciliation. Mais là, on va parler du deuxième concept que j'avais annoncé, c'est les Yom Kippour. Qu'est-ce que c'est ça ? Les Yom Kippour, ça veut dire, comme c'est écrit là-haut, jour d'expiation, en hébreu, Yom, jour, Kippour. Expiation. Et c'est une des sept fêtes juives, ou pour être plus exact avec les textes, fête de l'Éternel. Ça se retrouve en Lévitique 23. Vous savez, notre Dieu, il a, comment dire, plusieurs manières de se présenter. Non ? Parfois, c'est Dieu le Créateur. Hein. Et parfois, j'ai l'impression, excusez-moi, qu'il est un DRH, directeur des ressources humaines. Parce qu'après avoir organisé l'espace, il s'est mis à organiser les temps. Là, tu te reposes, là, tu travailles. C'est Dieu qui a créé la semaine des sept jours, qui peut-être nous semble une évidence, mais à l'époque, les peuples autour des Juifs, ils avaient des semaines de 9 jours, de 10 jours. C'est la semaine des 7 jours qui a trompé. Comme quoi, c'est Dieu qui dit, 6 jours vous travaillez, 1 jour vous vous reposez. Les Shabbat a été une folie à l'époque. Les Romains et les Grecs s'est moqués des Juifs. Vous vous arrêtez un jour, vous, votre bétail et vos esclaves, vous êtes fous. on travaillait sans cesse. Voilà ce que c'est les Shabbats. Mais pas que ça. Après, il dit, il y a toute une année où il y aura sept fêtes où vous allez vous arrêter. Et même parfois, Dieu ordonne se réjouir. Voilà. La dernière fête, la fête des Sukkot, il faut se réjouir. C'est un commandement. Bon, du coup, hein, si on est obligé, on va les faire. Hein. C'est pour ça que je disais que Dieu rassemble parfois un DRH parce qu'il établit ces sept fêtes. Et on connaît plusieurs, par exemple, Pessah, Pâques, qu'on va fêter la semaine prochaine, Pentecôte, Shavuot. Mais celle-là, de toutes les sept, c'est la plus solennelle de toutes. Parce que c'était les jours où Dieu accordait ou non les pardons des péchés à toute la nation d'Israël et pour une année. Les jours de Yom Kippour, les grands prêtres, et seulement les grands prêtres, va confesser d'abord ses péchés, les péchés de sa famille et après les péchés de toute la nation, et va demander pardon à Dieu en leur nom. Lui seul pouvait intercéder pour tous les peuples. Et pour réaliser ça, il va faire beaucoup de sacrifices au temple. Et seulement ce jour-là, il va pouvoir rentrer dans les lieux très saints. C'est-à-dire, je n'ai pas peut-être expliqué ça, mais Dieu, pour ainsi dire, il était tout seul là, dans les lieux très saints. Personne ne pouvait rentrer, jamais, sauf les grands prêtres qui le faisaient quatre fois en ce jour particulier du Yom Kippour. Et comment il va rentrer, les grands prêtres? Il va rentrer avec du sang, des boucs et des taureaux. Et le sang, il va l'asperger plusieurs fois sur les propitiatoires, les couvercles, les troncs de Dieu. Et en fait, j'ai des images là. Voilà. Ça, c'est comme une reproduction de ce qui devait être dans les premiers temples. L'époque de David et de Salomon, jusqu'à les 6e siècle. Parce que l'arche de l'Alliance s'est perdue. À l'époque de Jésus, l'arche n'était plus dans les temples. Et ça, c'est les grands prêtres habillés tout en lin blanc fin pour l'occasion. Les lins blancs ici représentent la pureté. La tradition juive raconte que les grands prêtres rentraient là, attachés par les pieds à une corde ou une chaîne. Mais alors, c'est quoi cette maltraitance? Parce que si malheureusement il faisait une malaise ou il mourait, alors personne ne pouvait rentrer, récupérer les corps ou les cadavres. Oh là là, on ne s'approche pas de Dieu. Le Yom Kippour, c'est une cérémonie très complexe. Il y avait 15 sacrifices. Pour les grands prêtres, c'était les jours de l'année. Il fallait déménager, lui, il partait une semaine avant, s'installer dans les temples où il y avait un logement des services pour prier, jeûner, étudier bien la cérémonie. Il fallait tout faire exactement selon comme c'était indiqué. Ces jours-là, les grands prêtres s'élavaient les corps entiers dans les bains rituels 5 fois. 5 fois, c'est changer des vêtements. 10 fois, c'est laver les mains et les pieds. Il devait asperger du sang 43 fois en faisant attention de ne pas s'étacher, tout habillé en blanc. Waouh! Et avec la peur, la tension, le stress, que tout dépendait de lui. Et lui seul pouvait le faire. Et s'il ne le faisait pas comme il fallait, Dieu ne pouvait pas n'accorder son pardon. Sur cette cérémonie du Yom Kippour, qui est très complexe et très longue, je vais mettre l'accent sur 2 éléments qui me servent à mon propos. C'est les boucs émissaires, d'abord. Peut-être, oui, vous connaissez bien cette expression, même si vous ne connaissez pas les Yom Kippour. En fait, l'expression bouc émissaire, qui est partie dans la langue courante, dans toutes les langues, je dirais, ça vient de la cérémonie du Yom Kippour. Et qu'est-ce que c'est le bouc émissaire? C'était un bouc, vous le voyez là. Et les grands prêtres mettaient ses 2 mains sur lui pour transférer les péchés d'Israël. C'est lui qui prenait tous les péchés, de façon que le peuple restait innocent. Après, on emmenait les boucs loin, c'est la 2e image, dans les déserts, pour qu'ils meurent en tombant d'une falaise. Après, il y a un autre élément à retenir aussi. Je ne sais pas si vous voyez de loin, mais le bouc, il a un petit cordon au fil rouge. On mettait un cordon rouge sur les boucs, mais aussi on pendait quelque part dans les temples un fil ou un cordon rouge. Et la tradition raconte que dès que la nouvelle arrivait, que les boucs émissaires étaient morts là dans les déserts, la laine passait soudain de rouge à blanc. Probablement, peut-être, ça vous fait penser à Ésaïe, chapitre 1, verset 18-19, qui dit « Si vos péchés sont rouges comme de l'écarlate, ils deviendront aussi blancs que la neige. Oui, s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront aussi blancs que la laine. » En tout cas, à la fin de cette cérémonie, les grands prêtres sortaient du sein des saints et disaient « Tout est accompli ». Autrement dit, le pardon est acquis, la relation est restaurée. Et c'est cela que Jésus dit à la croix. Le pardon est acquis, la relation est restaurée. Peut-être maintenant que je racontais un peu l'histoire de Yom Kippour, quelqu'un a la curiosité d'aller voir. Vous la retrouverez en Lévitique, chapitre 16. D'ailleurs, j'ai lu qu'à l'époque, dans la Lorraine, quand on voulait faire peur aux enfants, on leur disait « Si tu n'obéis pas, je vais te lire les Lévitiques. » Et ça me donne l'excuse pour une deuxième parenthèse. Excusez-moi, j'aime bien les parenthèses. Beaucoup entre nous, probablement, nous connaissons un verset qui se trouve dans la deuxième lettre que Paul adresse à Timothée, c'est 2 Timothée 3, 16, qui dit « Car toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour redresser, pour réfuter et pour mener une vie conforme à la volonté de Dieu. » Bien. Je ne sais pas si on est conscient que quand Paul dit ça à Timothée, l'Écriture dont il parle, c'est l'Ancien Testament, parce que le Nouveau Testament n'était pas encore là. On était en train de l'écrire. Est-ce qu'on croit que Dieu parle partout, même dans les endroits les moins attendus? Est-ce que pour nous, je ne sais pas s'il est Lévitique, d'autres livres, d'autres passages servent à menacer les enfants, à faire peur, mais on ne les fréquente jamais? Est-ce qu'on honore la parole de Dieu comme elle mérite dans notre cœur? Alors, je ferme les parenthèses. L'excuse, c'était la Lorraine. Hein. Dans les chapitres 16 de Lévitique, qui raconte la cérémonie de Yom Kippour, hein, il y a une cinquantaine de verbes. Tous font référence au grand prêtre. C'est fatigant seulement de le lire. Hein. Moi, j'ai de la compassion pour lui. Et maintenant, il fera ça. Et maintenant, il portera ça. Et maintenant, il rentre ça. Tout, tout, tout. Comme Jésus, qu'il a fait tout pour nous. Les peuples, en revanche, ne devaient rien faire. En fait, les Yom Kippour, c'est un jour où on ne doit rien faire. C'est écrit comme ça. On prie, on jeûne, pour rien faire, même pas manger, hein, en attendant les résultats de la cérémonie. Nous aussi, nous ne pouvons rien ajouter au sacrifice de Jésus. Et là, je vais dire une chose qui peut-être va sembler provocative, peut-être va réveiller quelqu'un ou énerver quelqu'un. Les Lévitiques 16, c'est probablement un des chapitres les plus importants de toute la Torah. Ah, mais non, mais non, mais non. Ça, c'est du n'importe quoi. Attends, la Torah, il y a la création de l'homme, l'appel d'Abraham, les peuples d'Israël, le sacrifice d'Isaac, la traversée de la mer. Lévitique 16? Non, tu rigoles. Non, je rigole pas. Et pourquoi je vous provoque comme ça? À cause de la suivante image, que c'est un peu compliqué, je le sais, hein, on ne comprend rien. Plein de mots, à droite, à gauche, c'est quoi ça? L'idée, ce n'est pas la lire, c'est la voir. En fait, c'est une image, ce n'est pas un texte. Toute la Torah est organisée comme un gigantesque chiasme. Je vais expliquer tout de suite qu'est-ce que c'est un chiasme, pour mettre l'accent sur les Lévitiques qui se trouvent au centre de l'image. Et les livres du Lévitique, à son tour, est organisé comme un chiasme pour mettre l'accent sur Lévitique 16, l'histoire du Yom Kippour. Oui. Alors, pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est un chiasme ? Un chiasme, c'est une figure rhétorique qui consiste à inverser deux groupes de mots, dans sa version la plus simple, pour établir des parallélismes. Ça vient du mot grec chiasmos, qui signifie mettre disposé en croix. Et la Bible en est pleine. Je ne sais pas si c'est la figure rhétorique la plus utilisée, mais en tout cas, on la trouve partout. Ancien Testament, Nouveau Testament, tout confondu. Par exemple, Jésus dit « L'homme n'a pas été fait pour les Shabbats, mais les Shabbats pour l'homme. » Vous voyez, c'est comme deux phrases qui se complémentent, qui se parlent, qui sont comme deux miroirs. Non ? Mais on peut faire des chiasmes beaucoup plus complexes. Les récits du déluge, c'est un chiasme. La fuite d'Élie, après avoir tué les prophètes de Baal, c'est un chiasme. Les débuts de l'évangile des Jean, c'est un chiasme. Ici, vous voyez, il y a des choses mises en parallèle. Il faut lire d'abord Genèse, après Exode, au milieu Lévitique, et on continuerait par Nombre et Deutéronome. Genèse 12:7, l'appel d'Abraham, la première promesse de la terre. Il y en aura plusieurs, mais la dernière arrive là, Deutéronome 34:4. La Genèse finit avec les bénédictions que Jacob fait sur tous ses enfants. Comment finit Deutéronome ? Les bénédictions de Moïse. L'Exode, c'est, il y a deux grandes migrations dans le Pentateuque. D'abord, d'Égypte à travers les déserts jusqu'au Sinaï, et plus tard, du Sinaï à travers les déserts jusqu'à Moab, la porte des Canaan. On trouve en Nombre. Et toute cette partie centrale du Lévitique, le peuple est arrêté au pied du mont Sinaï. Si on prend toutes les lettres dans la version de Massorétique, dans la version hébreu de la Bible, du Pentateuque, la moitié des lettres, on tombe sur Lévitique 16. Du coup, le cœur du cœur de la révélation de Dieu à son peuple, c'est comment se réconcilier avec Dieu. Parce que ça, c'est l'objectif du Dieu de la Bible. Et pour cette réconciliation de Dieu avec son peuple, il n'y avait rien à faire. Les grands prêtres les faisaient tout, absolument tout. Du coup, la grâce, si vous voulez, d'une certaine manière, est déjà annoncée et présente au cœur de la Torah. Dieu a créé un espace, les temples, et une procédure, les Yom Kippour, pour se réconcilier avec son peuple. Mais cela ne suffit pas pour atteindre l'objectif ultime de Dieu, la réconciliation avec toute l'humanité. Et je l'ai dit déjà, et je le répète, Jésus meurt à la croix pour permettre cela, pour ouvrir à toute l'humanité la réconciliation avec Dieu. Et là, j'ai fait un autre tableau qui s'appelle la rédemption, pour mettre en parallèle ce qu'on a vu, qu'on apprend dans la Torah qui est donnée à Moïse, et ce qui apporte la différence, la révolution qui représente la mort à la croix de Jésus. Vous voyez, on passe de devoir aller au temple où Dieu se trouve pour s'approcher de Dieu, à Dieu vient vers nous, tellement il a envie de restaurer la relation. Mais on s'est dit, si on a traversé tout l'Ancien Testament et on a vu comment les temples, c'est une chose, maintenant, l'Esprit de Dieu a décidé de venir vivre en nous et nous sommes les temples. Mais c'est une folie et c'est un grand honneur. Les pardons qui étaient accordés de manière temporaire, avec date de caducité, d'année en année, devient permanent et éternel. La réconciliation, qui à l'époque était limitée qu'aux Juifs, est ouverte à tous. En fait, maintenant, nous qu'on habite de ces côtés de l'histoire, on est tous chrétiens, on dirait pas nécessairement juifs, ça ne nous étonne pas. Mais à l'époque, Jésus, je l'ai dit, est juif, ses apôtres sont juifs, et les livres des Actes, on pourrait les sous-titrer « La surprise des apôtres de voir que l'Esprit est répandu dans les goyims, dans les païens, partout, même les centurions romains, l'ennemi. Qu'est-ce que c'est cette affaire ?» Les versets de Jean 3,16 qu'on connaît souvent par cœur parce que c'est comme un nutshell, l'évangile en une seule phrase. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que, si on vient de l'Ancien Testament, on pourrait se dire afin que tout juif pieux puisse accéder. Non, afin que quiconque, ces mots, elle est monumentale. Comme que quiconque, tout le monde, n'importe qui, n'importe où, n'importe comment, ta taille, ton poids, ton origine, ce que tu as fait, tout le monde peut accéder à la réconciliation avec Dieu. Et on passe de cette séparation terrible de la présence de Dieu seul, en fait, toute l'année, sauf pour un jour, à lui vient vivre en nous. On va laisser les temples avec ses systèmes sacrificiels, les jours de Yom Kippour, pour passer au troisième concept que j'avais annoncé, l'idée de grand prêtre. Et en fait, on en a parlé déjà un peu. Les grands prêtres, c'était les seuls à pouvoir rentrer dans les lieux très saints. C'était les seuls, donc, à pouvoir s'approcher. Et Jésus, donc, à l'époque, il y avait toujours la séparation. La lettre aux Hébreux nous apprend que Jésus est notre grand prêtre. On les lit dans le chapitre 4, versets 14 à 16. Ainsi, puisque nous avons en Jésus, les fils de Dieu, un grand prêtre éminent qui a traversé les cieux, demeurons fermement attachés à la foi que nous reconnaissons comme vraie. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point, comme nous le sommes, mais sans commettre du péché. Approchons-nous donc du trône de Dieu, des grâces, avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Pareil, comme j'ai dit pour Jean 3,16, si on a traversé l'Ancien Testament, si on vient dans cette culture, si on s'inscrit dans cette culture, on arrive à Hébreux 4,16 et on est bouleversé. Attends, approchons-nous donc du trône de Dieu des grâces, là où il y a la Shekinah, tu rigoles avec une pleine assurance. Mais qu'est-ce que c'est cette affaire? Les sacrifices de Jésus provoquent une révolution. Avec sa mort, il détruit la religion du temple. Le temple, je l'annonçais avant, sera détruit peu après, quelques décennies après la mort de Jésus, par l'armée romaine. Mais en fait, la mort de Jésus fait qu'il soit déjà dysfonctionnel. Il est mort avant de mourir, pour ainsi dire. Et comment c'est ça? Les évangiles nous racontent que le voile du temple s'est déchiré. Cette voile, c'est celui qui séparait les lieux saints de lieux très saints. Et c'était un voile que la tradition dit que deux bœufs de chaque côté ne peuvent pas les déchirer. Il s'est déchiré d'eau en bois, comme si c'était clairement un symbole, c'est Dieu qui les coupe. Il n'y a plus de séparation entre Dieu et l'homme. Les systèmes répétitifs des sacrifices sans cesse, dont les Yom Kippour faisaient partie, est aussi décédé. Il faut penser que tous les sacrifices dans les temples dépendaient des séjours. Les Yom Kippour étaient centrales. Et comment c'est que ces systèmes des sacrifices, parce que les temples ils étaient toujours là, est décédé? Bon, l'ironie de l'histoire, c'est que c'est la tradition juive qui atteste de cela. Dans les Talmuds, vous savez, les recueils des enseignements des grands rabbins, c'est écrit qu'à peu près 40 ans avant la destruction du temple, c'est-à-dire vers l'année 30, les temples s'est mis à faire des bizarreries. Les portes du temple s'ouvrent toutes seules. Vous pouvez imaginer, les portes, ce n'étaient pas des petites portes, c'était des portes colossales. La menorah, les lampadaires à sept bras, qui devaient être toujours allumées, s'est mis à vouloir s'étendre. Et ce qui était encore plus inquiétant, plus surprenant, plus effrayant, les fils rouges qui au Yom Kippour devenaient blancs, ils ne se transforment plus. il reste rouge. C'est la tradition juive qui atteste que Dieu n'accepte plus les sacrifices pour les pardons. Les jours d'expiation, il n'y a plus d'expiation. La lettre aux Hébreux nous apprend que Jésus devient cet grand prêtre pour nous, mais pas que. Chapitre 9, versets 11-12, on lit « Or, Christ est venu en tant que grand prêtre pour nous procurer les biens qu'il nous a désormais acquis. Il a traversé un tabernacle plus grand et plus parfait que les sanctuaires terrestres, les temples célestes que Moïse a vus au nom de la montagne. Un tabernacle qui n'a pas été fabriqué par des mains humaines, c'est-à-dire qui n'appartient pas à ces mondes créés. Il a pénétré une fois pour toutes dans les sanctuaires. Il a offert non le sang des boucs ou des veaux, mais son propre sang. Il nous a ainsi acquis un salut éternel. » C'est vrai que Jésus est notre grand prêtre. Et c'est écrit qu'il est rentré dans les temples du ciel comme grand prêtre, comme sacrificateur, mais aussi comme sacrifice. C'est-à-dire, les grands prêtres, ils rentraient avec du sang, mais des sangs, des animaux. Jésus rentre avec son sang. C'est lui-même qui s'offre. Ce n'est pas un substitut. Parfois, ces genres d'idées qu'on retrouve dans la Bible deviennent des pierres d'échoppement. Comment c'est possible que quelqu'un soit à la fois les sacrificateurs et les sacrifices? Parce qu'on est une chose ou l'autre. Non, ça ne rentre pas dans notre tête. Bon, je me dis que dans des occasions comme ça, nous que sommes chrétiens d'Occident, c'est-à-dire héritiers de l'Église de Rome, on devrait regarder, apprendre un peu de les chrétiens d'Orient. Les chrétiens d'Orient, c'est toutes les églises orthodoxes qui sont héritiers des Byzances. Pour eux, qui sont plutôt platoniciens et pas aristotéliens, et merci, monsieur le pasteur, pour eux, la logique n'est pas la dernière parole. Nous, tout doit être logique. Sinon, ça ne rentre pas dans notre tête et ça n'a pas aucun sens. Eux, ils se disent, waouh, Dieu est un et trois. Oh, c'est incroyable, c'est incompréhensible. Dieu est énorme, ça ne rentre pas dans ma tête. Bien sûr, parce que ça serait trop petit, ma tête, imaginez-vous. Dieu est au-delà de notre compréhension. Et ça n'est pas une pierre d'échoppement, c'est une invitation à l'émerveillement. En tout cas, moi, dans ces cas, sacrificateur et sacrifice, je les comprends comme Dieu prend tous les rôles pour aboutir à ça, à la réconciliation. Comment faire pour se retrouver à nouveau avec nous, réconciliés? Le Yom Kippour est une préfiguration, une ombre, une annonce de ce qu'allait faire les Messies quelques siècles plus tard dans les temples du ciel. D'ici, l'importance capitale de ce chapitre dans la Torah. Et j'arrive déjà à la conclusion. Les sacrifices de Jésus, on l'a vu, c'est les rançons que Dieu a payées pour que tout le monde puisse se réconcilier avec Dieu. Et nous, qu'est-ce qu'on fait devant cette invitation? Est-ce que nous tous ici, on a accepté les sacrifices de Jésus? On s'est repenti dans son cœur et on l'a invité à vivre dans nous. L'Esprit peut venir vivre dans nous. Tout est accompli, a dit Jésus à la croix, comme disaient chaque année les grands prêtres, dans les temples de Jérusalem, les jours de Yom Kippour. Les vrais jours de l'expiation, c'est seulement les jours de la mort de Jésus. Tous les autres précédents n'étaient que l'ombre, l'annonce, la préfiguration. En fait, toute l'Ancien Testament signale Jésus, nous annonce Jésus, nous donne un goût de Jésus, nous prépare pour Jésus. C'est comme si Jésus est caché là. Moi, j'ai dit que souvent, la Bible et Jésus, c'est un peu comme ces livres pour enfants qui s'appellent « Où se trouve Charlie ?» Je pense qu'il s'appelle comme ça. Les parents ici, probablement sauront de quoi je parle. C'est un livre horrible où il y a des pages remplies de millions de personnages et au milieu de ces personnages se cache Charlie, qui est toujours habillé pareil. T-shirt à rayures, lunettes, bonnet. Et parfois, tu regardes une page et tu dis non, ils se sont trompés à la maison d'édition. Charlie n'est pas là. C'est tellement bigarré, tellement des personnages. Mais non, il est toujours là. Jésus, pareil, il est là, dès Genèse 1, Apocalypse 22, toujours. Ce week-end, par exemple, les Juifs célèbrent la fête des Pourim. C'est la, c'est pas une des fêtes, cette fête, c'est la fête qui célèbre les événements des livres d'Esther. Et c'est quoi l'histoire d'Esther ? L'histoire d'une personne, une reine dans ces cas, disposée à donner sa vie s'il faut. Pourquoi ? Pour sauver un peuple. Tout nous parle de Jésus. Il est partout. Et depuis les sacrifices de Jésus, les chemins vers le Père est ouvert. Et lui, il nous attend les bras grands ouverts. Et j'ai même envie de dire, non, il ne nous attend pas. Il vient en courant vers nous, comme le Père du Fils prodigue. Il ôte l'horizon. Il s'est dit, il est là. Tellement il a envie de récupérer et restaurer la relation avec tous, quiconque croit en Jésus. Ces mots. Le temple est aussi disparu, tel quel, après la mort de Jésus. Maintenant, nous sommes devenus les temples. Quelle folie, quel honneur. Est-ce que nous sommes conscients de cette réalité? Et les grands prêtres, les vrais grands prêtres, les seuls grands prêtres, parce que les prêtres, c'était les médiateurs, les seuls vrais grands prêtres, est toujours là, avec son esprit dans nous, mais dans les ciels. La lettre aux Romains nous dit qu'il est assis à la droite de Dieu et qu'il intercède pour nous, toujours. Un jour, il viendra nous chercher. Pourquoi ? Pour qu'on soit toujours ensemble. Il va nous préparer la place. Un amour comme cela, on ne le connaît pas ici, sur terre. Quelle autre réponse possible devant tout cela que la reconnaissance ? Du coup, je vais finir avec la prière et rappeler que si quelqu'un veut recevoir la prière ou que quelqu'un prie avec lui ou elle, après les cultes, il y a la première salle où il y a des personnes avec un badge qui dit prière, où ils peuvent aller déposer leur fardeau, partager ce qu'ils ont sur les cœurs. Alors, merci notre Père pour ce temps. Je te demande que, oui, que ta parole puisse fructifier dans nos cœurs, de chacun, et qu'on puisse devenir de plus en plus à l'image de ton Fils Jésus. Merci pour son sacrifice, Seigneur. Merci pour ce que tu nous accordais les pardons pour toujours, Seigneur, pour qu'on puisse revenir vers toi et que tu nous attends. Tu viennes à nous avec les bras grands ouverts. Je te demande, Seigneur, que tu fasses fructifier ça. Au nom de Jésus. Amen.